Aujourd'hui, c'est la fête des mères, à ce qui paraît. Bonne fête, les mamans. Et j'aimerais justement qu'on parle un peu des mamans, mais je voulais pas faire que la fête aux mamans, entre guillemets, faire la fête aux parents, en fait. Et je vous invite à ouvrir votre Bible et on va lire quelques versets. Il n'y a pas un passage qui parle uniquement de cela, et il y a beaucoup de choses dans la Bible, on n'aura pas le temps de tout voir, mais on va commencer déjà dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome, chapitre 6, Deutéronome 6, on va lire les versets 20 à 25. Deutéronome, chapitre 6, versets 20 à 25. Lorsque ton fils te demandera un jour que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel notre Dieu vous a prescrits, tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges grands et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères et de donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu comme il nous l'a ordonné. On va aller un peu plus loin dans Proverbes au chapitre 1. Proverbes chapitre 1. On va lire les versets 7 à 8. Je vais me promener dans la Bible un peu ce matin. Il dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Et on va aller dans le Nouveau Testament, dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 13 à 14. C'est pour dire que toute la Bible est d'accord avec l'enseignement des enfants et surtout le rôle des parents là-dedans. On va dire plutôt les versets 14 à 15. 2 Timothée 3, 14 à 15. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres, on parle de Timothée là, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Allons au verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, etc. etc. Je crois que la Bible parle de l'enseignement que les parents doivent donner à leurs enfants. Le problème, c'est que bien souvent, il y a la vie aussi. Et la vie, c'est souvent du stress. C'est pas toujours simple d'être parent. Il faut aller vite dans beaucoup de choses. Et bien souvent, à cause de ça, on oublie les enfants. On ne les oublie pas dans certains domaines, on verra tout à l'heure. Mais l'essentiel, là, souvent, on l'oublie. Beaucoup de parents, et même des chrétiens, souvent démissionnent, et de plus en plus aujourd'hui, parce qu'ils sont fatigués, ils en ont marre. La fatigue, la déprime, et peut-être beaucoup de choses font qu'à un moment, ils en ont marre, et ils n'arrivent plus à suivre, quelque part. Et rarement, ces enfants sont évangélisés, ou dans le sens instruits dans la parole de Dieu. Et on se dit, de toute façon, il y a l'Église, donc ils ont de quoi faire. Et là, ce n'est pas tout à fait ce que dit la Bible, au contraire. Mais ces jeunes cœurs, c'est des enfants qui ont besoin d'entendre la parole, qui ont besoin d'entendre cette parole parce qu'elle doit les travailler à salut, comme nous. On est sauvés, ça va. Nous, on est sauvés, tout est réglé. Mais eux ne le sont pas encore. Et ils ont besoin d'entendre la parole. Et j'aimerais justement parler de cela ce matin. L'enseignement des enfants dans la Bible. Alors, pourquoi déjà avoir des enfants? Alors là, on pourrait parler pendant des heures si vous voulez, mais je vais être biblique, faire des enfants. Dans quel but? Dans Genèse 1, 28, il est dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. C'est Dieu qui a donné l'ordre de remplir la terre et donc de faire des enfants. Mais je pense que vous ne faites pas les enfants juste pour ça. Enfin, j'espère. Il y en a qui le font, hélas, mais vous le faites par amour, parce que vous avez eu envie d'avoir des enfants. Et c'est l'occasion, justement, en faisant des enfants, de les aimer et de les éduquer. fait pas des enfants juste pour les faire. Et on les laisse ensuite vivre. Mais le vrai amour, je pense, pour un enfant, c'est de cette éducation qu'on doit leur instruire, et surtout l'instruction spirituelle. Les deux vont ensemble, je crois. Et parce que ces deux choses vont conduire à Christ, normalement. Si on les instruit, si on les éduque, mais surtout si on les éduque avec le Seigneur, normalement, à un moment, ils vont fléchir le genou devant Dieu. Pas toujours, hélas, mais normalement. Quand on s'intéresse un peu dans l'histoire par rapport aux écoles, par exemple, et l'enseignement que recevaient les enfants à l'époque, je pense à l'époque de Paul, quand il était il travaillait avec Gamaliel, il était instruit par lui. Il n'y avait pas beaucoup d'écoles à ce moment-là, et c'était surtout dans les grandes villes. Mais ce qui est intéressant à noter à ce moment-là, c'est que quand les enfants étaient instruits, ils apprenaient ce qu'on apprend à l'école, mais ils étaient aussi instruits dans la loi et dans les révélations de Dieu, c'est-à-dire de ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Les deux étaient liés. On apprenait les maths, mais on apprenait aussi Jésus-Christ. Enfin, pas Jésus-Christ à ce moment, mais Dieu. Donc les deux étaient liés. C'est bien dommage qu'aujourd'hui, on n'apprend plus que les maths. J'aime pas les maths, c'est pour ça. Il y a quelqu'un qui va me maudire tout à l'heure. Mais les deux étaient liés. Et ça, c'est intéressant de noter. Et au fur et à mesure, le diable a réussi à distinguer les deux pour qu'on apprenne simplement. Il n'y a pas que les maths, il y a la philo. Mais ça, j'aime mieux. Mais voilà, ils étaient instruits à l'époque. Mais surtout, ce que je voulais noter, c'est qu'ils étaient instruits dans la parole de Dieu. Si l'enseignement des adultes est indispensable, capital, j'ai envie de dire, eh bien, je pense que celui des enfants l'est aussi. Et là, justement, la Bible nous dit que les parents ont un rôle crucial, en fait. Et on va voir ça. On a vu dans Proverbe que le travail se faisait papa-maman. Souvent, il n'y a que maman ou il n'y a que papa. Papa-maman travaillent ensemble pour éduquer les enfants et surtout les éduquer dans la foi. On a vu dans Proverbe 1 tout à l'heure, la crainte de Dieu, c'est la motivation de l'éducation. Si je crains vraiment Dieu, j'ai aussi, d'abord, j'aime Dieu. Je veux le respecter et forcément, je veux que ça soit dans ma famille aussi, qu'on respecte Dieu. Et l'éducation va se faire ensemble. Mais pour faire une éducation spirituelle, il faut que je sois spirituel moi d'abord. Il faut que je connaisse cette parole. Qu'est-ce que je peux dire à mon enfant si je ne sais rien ? Ou peu ? Parce que vous savez, les enfants, ils ont des fois des questions tordues. Et on se regarde avec la maman et puis on se dit, je ne sais pas, va voir le pasteur. Des fois, je vais les renvoyer exprès vers les parents pour leur dire, mais à vous d'aller chercher dans la Bible. Vous êtes censé savoir ces choses-là pour instruire les enfants. Alors, je ne pense pas que vous aurez des grosses questions théologiques de la part d'un enfant non plus, mais des fois, Mais c'est le rôle des parents d'instruire les enfants et surtout ensuite de mettre en pratique ce qu'on dit aux enfants. C'est bien de dire, ah, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça, et que moi je le fais, et puis je dis des gros mots, etc. Et l'enfant, ben, il te regarde et il dit, ah ouais, tu me dis de faire, mais toi tu ne fais pas. Vous savez, les enfants, ils regardent. Ils regardent énormément ce que l'on fait. Et c'est comme cela, je pense, qu'en les éduquant, en respectant les parents, qu'ils vont honorer justement les parents. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui honorent leurs parents. C'est bien triste. Et il n'y a pas beaucoup de parents qui honorent leurs enfants par l'éducation non plus. C'est quelque chose qui se perd et ça va être terrible. Mais en tant que chrétien, je dois comprendre que c'est ma responsabilité en tant que parent. Et la Bible nous parle d'abord du rôle du père, qui est le chef de la famille. Dans 1 Corinthiens 11, 3, il dit « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » L'homme est le chef de la femme, il aime bien être le chef de la femme quand il s'agit « Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, dites-moi, suivez-moi, voilà. » Mais il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont les chefs spirituels de leur famille, très rarement. Si on est chef de famille, on est le pilier central de la famille normalement. Et je devrais être, moi, en tant que père, capable de guider ma famille dans les voies du Seigneur. C'est ma responsabilité en tant que chef. Il n'y a pas que les décisions pour la voiture ou pour je ne sais pas quoi. Dieu va tenir compte aussi de ma manière d'avoir éduqué, on va dire, ma famille dans la parole. Autrefois, dans l'Ancien Testament, à Pâques, à ce moment-là, le père de famille réunissait la famille et comptait les hauts faits de Dieu. Il racontait ce que Dieu avait fait. Il racontait ça à toute la famille. Forcément, ça restait dans la tête au fur et à mesure. Parce que nous prenons le temps, nous, des fois, en tant que chef de famille, si on a des enfants en particulier, de les réunir et de compter les hauts faits de Dieu. Ce serait bien de le faire assez régulièrement. On l'a vu tout à l'heure dans Proverbe, le fils doit écouter l'instruction de son père. Allez dire ça aujourd'hui aux enfants. Écoute mon instruction. Papa. Mais l'instruction, le mot en hébreu, veut dire châtiment. Alors là, je vais me faire lyncher. correction, science, ceinture. Ah oui, le mot hébreu veut dire ça. On comprend que cette instruction-là, elle n'est pas tendre, on va dire, hein, quelque part. Il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême où on bat son enfant. On n'est pas d'accord avec ça, évidemment. Mais malgré ce qu'on dit aujourd'hui, ben, une petite baffe, ça ne fait pas du mal. Une petite correction. Hein. J'en ai eu plein, moi, quand j'étais petit, parce que j'étais tellement sage. Mais ça m'a aidé quand même, l'air de rien. Hein. Bon, il y en a qui exagèrent, et on n'est pas là pour humilier les enfants non plus, on est bien d'accord. Mais on a besoin, des fois, d'être repris, parce que ben, l'enfant ben, fait sa voix. Hein. Mais il doit écouter l'instruction, et c'est le père qui doit enseigner, dans ce cas-là, mais sans l'irriter, nous dit Colossiens. Parce que quand on irrite l'enfant, ben, à un moment, il va se décourager et puis il ne va plus vous écouter. Il faut avoir de l'amour et ce n'est pas toujours simple de jongler entre être juste avec son enfant, corriger et ne pas décourager l'enfant. Je me souviens quand j'étais enfant, ce n'est pas toujours simple. Mais le Seigneur nous aide aussi et nous donne de la sagesse dans ce domaine. Il faut élever en corrigeant et en instruisant selon Christ, hein, nous dit Ephésiens 6, je ne vais pas tout lire, mais notre correction, elle doit être aussi juste que celle de Christ. Pour moi, la correction, c'est l'amour mêlé à la justice. Je me souviens d'un pasteur quand j'étais à l'Institut biblique, et il disait comme cela comment il corrigeait son enfant. Il le prenait avec un sourire quelque part, parce qu'il venait de faire une bêtise, il se mettait dans un coin et lui expliquait, écoute, voilà, tu as fait une bêtise, je vais devoir te punir. Et le gamin, mais il lui a expliqué pourquoi il faisait cela. Il n'a pas frappé juste pour le frapper. Et c'est bien d'expliquer aux enfants pourquoi ils sont corrigés, comme nous, le Seigneur, nous dit pourquoi nous sommes corrigés. Et après, il a eu la fessée, le gamin, ça c'est clair. Et le Seigneur, des fois, nous met aussi des claques et des fessées, parce que nous ne voulons pas écouter son instruction. Christ est un exemple, il n'a pas eu d'enfant, certes, mais c'est quand même un exemple de manière de vivre. Il y a eu tellement d'ennemis, il a toujours été calme face aux difficultés. Et donc, des fois, on a envie de... Il faut être patient, il faut se maîtriser, c'est le fruit de l'esprit, même dans ces situations-là. Et on veut essayer de faire au maximum comme lui. Vous savez, l'enfant, quand il comprend pourquoi il est puni, parfois il va accepter aussi la punition, il a compris. Mais ce n'est pas toujours évident. Puis le rôle de la mère, hein, c'est très générique, je te le dis, parce qu'on peut rentrer dans beaucoup de détails, mais on a vu tout à l'heure que le fils doit écouter l'enseignement de sa mère. Hein. L'enseignement, c'est Torah, c'est-à-dire loi, commandement, les directions. Les deux, évidemment, se rejoignent. Hein. Éduque de la même manière. Mais la mère ne peut qu'enseigner aussi, comme le père, ce qu'elle a appris elle-même de la parole de Dieu. Je ne peux rien donner de plus que ce que je connais moi. Et l'enfant a besoin de plus que ce qu'on connaît des fois. C'est transmettre la loi, la foi, pardon. On a vu l'exemple tout à l'heure de Eunice et Loïs, hein, la maman et la grand-mère de Timothée. Le père, je pense qu'il n'était plus là, il est décédé certainement, mais ils ont instruit leur fils dans la foi. Et il dit dans 2 Timothée 1, 5, « Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » Elles ont pris ça à cœur d'éduquer leur enfant, Timothée, pour qu'il apprenne à être instruit dans le Seigneur. Voilà que le rôle de la maman est capital. C'est le rôle du père, mais aussi de la maman, et les deux doivent travailler ensemble. En parlant de la mère de Spurgeon, hein, il disait... Spurgeon, un grand prédicateur, il raconte comment il lisait les lisait les Écritures à ses enfants, les suppliant de prendre en considération le bien-être de leur âme. Je ne saurais dire combien je dois aux paroles solennelles de ma bonne mère. Je me souviens de l'entendre prier une fois de la sorte. Maintenant, Seigneur, si mes enfants persistent dans leur péché, ça ne sera pas par ignorance de leur perdition. Mon âme devra porter contre eux un prompt témoignage au jour du jugement s'ils ne se saisissent pas de Christ. Elle est dure, maman, hein? Mais elle est vraie. Cette pensée de ma mère portant un prompt témoignage contre moi me transperça la conscience. Il disait, si tu continues comme ça, tu vas en enfer. Ah ben, elle a raison, la maman, de le dire. Bon, il y a peut-être d'autres formules, hein, mais bon. Comment oublierai-je le jour où, pliant le genou et les bras autour de mon cou, elle pria ainsi, « Oh, que mon fils vive devant toi, devant Dieu. » Elle avait à cœur que Spurgeon se convertisse. Et il le fera, et ça deviendra quelqu'un d'exceptionnel. Mais il y avait une maman au début. Hein, souvent, on dit les pasteurs, les églises et machin. Il y a des mamans au début de beaucoup de ministères. N'oublions jamais ça. Hein. Moi, je ne peux pas être à votre place. J'aimerais bien, mais vous ne voudriez pas de moi tous les jours dans la maison non plus. Hein. Mais elle transmet la foi. Elle montre cette foi par des actes concrets dans sa vie. Hein. Elle démontre que c'est vrai. Et puis, il y a le rôle de l'église aussi, je pense. Alors, on a l'école du dimanche. On a la chance quand même de pouvoir amener nos enfants qu'ils puissent être instruits dans la foi, apprendre. Ces choses-là ne vont pas forcément conduire au salut pour l'instant, mais vont rentrer dans le cœur, dans la mémoire. Et moi, je me souviens que j'étais à l'église jusqu'à 15 ans. Après, je dis tout ça, j'en veux plus. Mais quand j'ai rouvert ma Bible, tout ça s'est remonté. Tout ce que j'avais pris, les chants, les versets, tout ça, c'est remonté. Donc, c'est quelque part, ça travaille dans le cœur, et un jour, ça va produire son fruit. Donc, ne désespérons pas, hein, si vous ne voyez pas encore vos enfants convertis, même quand ils ont 40 ans. On continue à prier pour eux. Mais des fois aussi, le problème, c'est que moi, je suis paresseux en tant que parent, spirituellement. Donc, l'église, le dimanche, on est bien au lit, hein. Ce matin, je suis bien resté au lit, moi. Je ne sais pas pourquoi. Le problème, c'est que vous pouvez me chercher. Mais des fois, on est paresseux. Alors, bon, nous, on se dit, nous, on est sauvés. Mais ça impacte les enfants, puisque eux ne vont pas aller à l'église. Eux ne vont pas entendre leur instruction. Alors, une fois, je ne dis pas qu'il faut être là tout le temps, mais si c'est deux fois, trois fois par mois, c'est bien dommage pour eux. Je pense que le Seigneur fera un reproche aussi à un moment. C'est ma responsabilité. J'ai trouvé le moyen de vous faire venir. Non, mais c'est vrai, je rigole, mais c'est vrai quelque part. Ça impacte nos enfants. Vous savez, les enfants, ils sont dans le monde pendant une bonne partie de la semaine, une heure dans la semaine où ils vont être dans la bonne voie, on va dire. C'est pas grand-chose. Alors évidemment, s'il y a un culte de famille, si on les éduque à la maison, c'est très bien pour eux. Mais ils sont quand même pourris par le monde. Et ça, c'est triste. Hein. Mais bon, quelque part, c'est aussi bien pour eux, pour qu'ils apprennent à se confronter à la réalité. Et puis les enfants, hein, comme j'ai dit, ils observent les parents. Hein, si les parents ne font pas ce que dit la Bible ou s'ils ont des mauvaises habitudes, eh ben, qu'est-ce qu'ils vont faire les enfants? Ils imitent papa, hein, ils imitent maman, tout simplement. Et voilà, on connaît tous nos défauts, on sait très bien. Mais vous savez, les enfants vont faire à peu près la même chose après. Peut-être que le Seigneur va les rattraper, mais à nous de faire attention à nos habitudes de vie, de parler de ce qu'on regarde, de ce qu'on entend, etc. Parce que l'enfant, lui, va regarder, entendre, faire ce que vous faites aussi. S'il y a l'école du dimanche, je crois qu'il y a aussi le rôle de tous les chrétiens. Chacun d'entre nous, on est responsable de nos enfants dans l'église, quelque part. Pas au-delà des parents, on est bien d'accord, mais ils nous regardent aussi, ils nous voient le dimanche à l'église. Ils savent peut-être, bon là je parle plus des parents, s'ils ont un culte personnel, s'ils prennent le temps de prier, mais nous voient nous aussi en tant que chrétiens prier, voient notre foi, etc., etc. Et même si j'ai pas d'enfant, ce qu'on peut dire c'est que concerne que les parents, j'ai aussi une responsabilité. Moi j'ai pas d'enfant, mais ils me regardent quand même, et j'y fais n'importe quoi. Ils vont dire, ah, t'as vu le pasteur, il fait n'importe quoi, hein. Et ils regardent. Donc on doit être un exemple aussi pour eux, autant à la maison, autant à l'église, autant tous les chrétiens. Et quand on le fait, parce que c'était quelque chose qui, moi, m'a découragé profondément quand j'étais jeune, j'ai vu des mauvais exemples et j'ai dit, c'est ça, votre Dieu, vous voulez le garder. Mais ce n'était pas ça, le Dieu. Parce qu'après, j'ai lu la Bible et j'ai vu que ce n'était pas du tout la même chose. Mais bon, voilà, on doit être un exemple. Et donc, il y a trois choses, le couple, papa, maman, hein, et puis l'Église qui a son rôle dans cette éducation. Chacun a un rôle et cela, normalement, devrait conduire à Christ un jour à l'autre. Troisième chose qu'on peut apprendre dans la Bible, c'est la responsabilité des parents dans l'enseignement des enfants. Dieu nous a donné des outils quelque part. Dans Deutéronome 4, 9 à 10, il écrit « Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. » On était à l'époque de l'Ancien Testament, ils avaient vu Israël être délivré de l'Égypte. Donc ils ont vu des grands miracles, des choses extraordinaires. Ce n'est pas parce qu'ils l'ont vu qu'ils ont forcément été obéissants. Mais voilà, ils ont vu des choses. Et c'est ce qu'il est en train de dire là, c'est que nous devons aussi inculquer ce que nous avons vécu, nous-mêmes, en tant que chrétiens. Hein, je transmets un témoignage à mon enfant. Mon enfant doit savoir qu'à un moment, oui, ben, Dieu m'a protégé dans telle situation. Il nous a tirés de cette telle épreuve. Le Seigneur peut aider dans la difficulté financière ou dans le besoin d'un travail, on est un témoignage et il faut qu'il le sache quelque part. Hein. Souvent, on est plutôt inverse. Non, on est plutôt en train de crier à Dieu, au secours. Mais il y a un témoignage à leur donner. Et quelque part, en leur donnant ce témoignage, je leur prouve que Dieu est bien vivant, que Dieu peut vraiment m'aider et les aider, qu'il peut m'assister dans ma propre vie. Et si l'enfant voit que ça se passe bien pour vous, ben, qu'est-ce qu'il va faire à un moment ? Et je vais prier, je vais voir si ça marche vraiment, je vais voir si Dieu m'aide. Et peut-être que Dieu va justement lui répondre, hein, comme Samuel à l'époque. Donc j'ai un témoignage à leur donner. Et ce témoignage, c'est aussi une mémoire quelque part. Parler des choses qu'ils ont vues et qui bien souvent ben, sortent du cœur. Hein. On sait que Dieu a fait un tas de choses pour nous il y a quelque temps, et puis 3 mois, 6 mois, 1 an après, la première épreuve qui arrive, pouf, on pleure. On ne se souvient pas que la dernière fois, il nous a aidés, ou plusieurs fois. parce qu'on oublie vite les choses. C'est un peu l'histoire de Ninive, hein, rapidement. Jonas était venu pour condamner cette ville de la part de Dieu. Ninive va faire quoi ? Va se repentir. Waouh ! Miraculeux ce qui s'est passé ce jour-là. Mais si vous connaissez Nahum, c'est 100 ans plus tard environ, et bien cette fois, Ninive va être rasée parce qu'il ne voulait plus se repentir. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais c'est peut-être ses parents qui se sont repentis, qui n'ont pas transmis ces choses-là à leur enfant. Et finalement, cette ville va être détruite. La mémoire a été oubliée de ce que Dieu avait fait. Et en plus, on a la chance parce que les enfants, ils ont une grande mémoire. Ah, qu'est-ce que j'aimerais bien retrouver cette mémoire, moi. Donc si on leur transmet des choses à cet âge-là, eh ben, ils vont se souvenir justement des bontés de l'Éternel, de ce témoignage qu'on veut leur transmettre. Et le texte disait aussi aux enfants, comme aux petits-enfants, doit instruire mes enfants, mais aussi plus tard leurs enfants, s'ils m'autorisent évidemment. Hein. Et si j'ai instruit moi-même mes enfants, ben, peut-être eux le feront d'abord, et vont instruire leurs enfants. Mais en tant que grand-parent, je reste toujours un modèle. Et dans la mesure où je peux, ben, je veux toujours continuer à instruire mes petits-enfants. Mes enfants, mais aussi mes petits-enfants. Donc jusqu'à la fin, en fait, on sera toujours en train d'être un modèle, d'être toujours en train d'instruire les enfants, les petits-enfants. C'est formidable. Espérons que ça aille jusqu'au salut pour chacun d'entre eux. Concernant le contenu de l'enseignement, hein, alors, il y aura beaucoup de choses à dire, mais on l'a vu tout à l'heure, apprendre aux enfants la crainte de Dieu. Il faudrait déjà qu'ils apprennent la crainte des parents. C'est pas mal, surtout aujourd'hui, hein, mais la crainte de Dieu, c'est connaître vraiment qui est Dieu. C'est pas avoir peur de Dieu, mais c'est savoir qui il est. Vous savez, plus vite ils vont connaître qui il est, plus vite ils vont le craindre, plus vite ils vont le respecter. Alors, bon, les petits-enfants vont obéir de façon, hein, on va dire, on fait pour faire, mais plus tard ça va se développer. Et on voit bien qu'à 15 ans, les enfants n'obéissent plus de la même manière. Hein. Mais peut-être que si cette crainte était déjà dans leur cœur, cette puberté va se passer un peu mieux, on va dire, parce qu'ils ont la crainte de Dieu. Mais des enfants qui ont la crainte de Dieu, c'est que des avantages. Ils vont s'intégrer socialement plus facilement. Parce que moi, j'en ai connu des enfants qui ne voulaient pas obéir. Quand j'étais responsable dans une entreprise, eh ben, les gamins, pour les faire travailler, mes amis, ils vomissaient devant l'usine le matin, ils venaient de boîte, ils s'en fichaient complètement de ce qui se passait. Il n'y a aucune crainte de rien du tout là-dedans. C'est donc pas éduqué, mais un enfant qui est éduqué dans la foi va respecter le patron, va respecter les gens, et c'est ça qui est formidable, c'est un avantage pour lui. Il va être obéissant, il va être humble, j'espère en tout cas, et il va rechercher Dieu. Il n'y a que des avantages que l'enfant craigne Dieu. Puis les enfants auront des questions, on l'a dit tout à l'heure, hein, on l'a vu dans Deutéronome, quand ton fils te demandera, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Bible, les fils, les filles vont demander un jour telle ou telle question. Et c'est tellement beau de pouvoir répondre à une question d'enfant comme cela. Quand un enfant, hier, il y a Diego, il m'a posé plein de questions, mais vraiment bibliques, ça m'a fait plaisir d'entendre ça. Il faut être prêt à lui répondre aussi, hein, il faut être prêt à répondre aux enfants, parce qu'ils ont vraiment soif d'entendre la réponse, et ça va peut-être travailler leur cœur, quelque part. Hein. Donc, rien n'est plus beau qu'un enfant qui pose des questions vis-à-vis de Dieu, mais là, les parents doivent connaître les cinq lettres, hein, sinon je ne peux pas répondre. Et ce qui est curieux, c'est que souvent les études bibliques, c'est plus des réunions de femmes. Où sont les hommes qui sont censés instruire et être le chef de la famille ? Ce n'est pas un reproche que je veux faire, mais c'est une constatation. Et c'est pour ça qu'il y a peu d'hommes, souvent, qui jouent leur rôle de chef de famille, parce qu'ils ne sont pas instruits, tout simplement. Ils ne connaissent pas les choses. C'est bien triste. La fréquence de l'enseignement aussi. Dans Deutéronome 11, 18, 19, il est dit « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. » Vous les lirez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontons entre vos yeux. Vous enseignerez à vos enfants, et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tout le temps, presque tout le temps, en fait, la fréquence. Hein. Demandez de serrer les commandements dans le cœur de façon forte, hein. Ça veut dire qu'il faut s'en souvenir et connaître, évidemment. Mais c'est le rôle des parents, là. C'est papa, maman qui doivent connaître les commandements, les serrer fort dans leur cœur, ça veut dire les respecter, hein, mais beaucoup de parents ne comprennent pas ça. C'est eux d'abord qui doivent commencer à être éduqués spirituellement. S'ils sont prêts, souvent à tout pour leurs enfants, hein, on est prêt à faire un tas de choses, des crédits pour qu'ils arrivent à devenir des grandes personnes, mais pas souvent pour le domaine spirituel. Ça, c'est dommage. C'est bien dommage. Le texte disait comme des frontons entre les yeux. Hein. Le fronton, c'est quelque chose qui est attaché au front et au bras gauche à l'époque, hein, dans l'Ancien Testament. Et dedans, il y avait quatre passages en fait du Pentateuque. Hein. C'était un peu le souvenir de la parole de Dieu qui était constamment sur eux quelque part. C'est un peu le iPhone aujourd'hui, hein, parce qu'on a une Bible dans notre téléphone portable. Alors, ne mettez pas sur le front, ça ferait bizarre. Mais vous avez aussi la parole de Dieu disponible aujourd'hui partout. Ça, c'est formidable aussi. Hein. Mais c'était pour se souvenir, tout simplement. Dieu est là. Dieu veut me transmettre sa parole. Et il devait en parler partout, un peu parce que, comme aujourd'hui, Christ est partout, et pourquoi pas nous témoigner de Christ partout. Il savait en parler à la maison, on l'a vu tout à l'heure, certainement que, ben, comme le père réunissait des fois la famille, il y avait peut-être des discussions journalières, hein, quand on rentre de l'école, on a appris des choses, on a vu des machins. Dis-moi, papa, Dieu, il est d'accord avec ça ? Pas souvent, hein. Mais voilà, il y avait une relation avec les enfants et surtout au niveau de la parole. En voyage aussi, c'est génial. Souvent on met un DVD comme ça, ils ne vont pas faire de bruit et puis on est tranquille en tant que parent. Peut-être une occasion de parler, discuter, poser des questions, non ? Ça changerait un petit peu que, hop, on se débarrasse. Ou qu'ils sont sur leur smartphone. Ou mettez-leur la Bible, ça serait mieux. Hein ? Mais c'est des occasions, le voyage justement, de partager la parole de Dieu. Regardez la beauté de la nature. Qui a créé tout ça ? Alors, dis-moi, hein, qui a créé toutes ces choses-là ? Tellement de choses à partager. Et puis le texte nous dit, en fait, c'est en tout moment, hein, toute circonstance favorable, ou peut-être pas non, mais en tout cas, toute circonstance est favorable pour instruire l'enfant en Christ. À nous de saisir ces occasions. Il ne s'agit pas de les saouler toute la journée, non plus avec Dieu, on est bien d'accord. Parce que l'enfant va vous dire à un moment, oh, stop, moi je veux voir mon dessin animé. Hein. Même étant un dessin animé chrétien. Non. Il faut quand même être sage aussi, comme vous ne voudriez pas être tous les jours saoulé par moi. On est bien d'accord. Donc, les objectifs aussi de cet enseignement, et là, il y en a deux souvent, hélas, qui s'opposent, mais on a des objectifs bien charnels pour nos enfants, parce qu'on est prêt à investir, comme j'ai dit tout à l'heure, pour l'avenir de l'enfant, on est prêt à tous les sacrifices pour qu'il réussisse. C'est légitime, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, on est bien d'accord. Mais quand on oppose un peu, enfin, quand on met en parallèle cet investissement pour sa réussite, et l'investissement qu'on met pour qu'il se convertisse un jour, je suis désolé de le dire, il y a vraiment une différence. Vous savez, avoir un master ou un doctorat ne vous empêche pas d'aller en enfer. C'est bien de l'avoir, je suis content qu'il l'ait, ça va permettre d'avoir une situation, mais ça ne le sauvera pas. Et je pense qu'en tant que parent, le plus important, c'est qu'il soit sauvé, évidemment. Après, il a ses responsabilités, hein. Il va vous dire, moi j'ai mon master, mais je n'ai pas envie de Dieu. Ok, il n'y a pas de problème. Mais au moins, on l'aura fait. On ne sera pas responsable. Nous avons peu de temps, des fois, pour les choses de Dieu. Et pourtant, je pense que les deux ne sont pas incompatibles. Il faut tout faire pour son enfant, l'accompagner, ça je suis tout à fait d'accord, mais il faut aussi tout faire pour qu'il aille vers Christ. Et vous savez, quand les deux travaillent ensemble, c'est la vraie réussite pour moi d'un enfant, dans sa vie. Et ça, c'est un choix de vie que moi je fais. C'est un choix aussi que l'enfant va faire. C'est quoi la réussite pour vous, pour un enfant ? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. La vraie réussite, c'est qu'il soit sauvé. Et en plus, il a son master, on est content pour lui, tout simplement. Les objectifs du Seigneur, c'est de, il y a beaucoup de passages qui disent, de rendre l'enfant sage à salut. Quand on y arrive, un enfant qui rentre dans la vie avec de la sagesse, c'est génial pour lui, en fait. Il n'aura pas trop de problèmes, bon, tous nos épreuves, nos difficultés, mais en tout cas, il aura cette sagesse face aux situations de la vie. C'est formidable. C'est tellement utile dans la vie, hein, mais le problème, c'est que ça va passer par la Bible. Il ne peut pas apprendre la sagesse s'il ne passe pas par la Bible, par ce que font les parents, mais aussi après lui, évidemment, de prendre le temps de connaître cette parole. Le fait de l'instruire dans la sagesse, dans la foi, ben justement, ça va développer ce cœur pour Dieu. Il nous dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, pas de l'Église le dimanche matin. De la parole de Dieu, ça veut dire qu'il doit être plongé dans cette parole, comme papa, comme maman, lui ont montré. Et c'est là où cette foi va grandir et à un moment va produire la conversion. Et la Bible nous dit que c'est comme ça qu'on est heureux. Vous aimez être heureux ? Regardez les gamins aujourd'hui. Ils sont malheureux, ils sont perdus, ils se suicident. Parce qu'il n'y a aucun repère. On va dire déjà éducation tout simple, mais spirituellement parlant, il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est triste ? Mais vivre les commandements, ou les inculquer et puis les vivre soi-même ensuite, ben ça donne de la joie. Ah, les commandements, il faut faire, il faut faire, il faut faire. Non, on fait parce qu'on sait que ça nous fait du bien. Quand il dit « tu ne voleras point », c'est chouette, j'irai pas en prison. Et ça fait du bien quelque part, non? Ça fait du bien. Et là, j'exagère peut-être la situation, mais quand je ne me mets pas en colère contre mon enfant, je ne vais pas culpabiliser après. Hein. Il y a des bonnes colères, on est d'accord, mais des fois, on exagère un petit peu. Mais je ne vais pas culpabiliser après, et surtout, je pense qu'il faut demander pardon à son enfant, si on a exagéré aussi nous-mêmes. Et ça, peu de parents le font, hélas, hein, reconnaître nos torts. Vous savez, si vous reconnaissez vos torts, lui va apprendre aussi à reconnaître les siens. C'est difficile en tant que parent, je sais, hein, ou en tant que personne tout simplement, mais lui va imiter cette façon de faire. Être parent signifie avoir des responsabilités, des grandes responsabilités. Vous avez voulu avoir vos enfants, ben maintenant, eh oui, vous êtes responsable d'eux. Alors, ils ont leurs propres responsabilités aussi, mais Dieu tient compte de la nôtre, en tant que parent aussi. Pour terminer, j'ai une triste nouvelle, parce que si vous lisez dans l'Apocalypse 20, 12, à un moment, il y a le grand trône blanc qui sera établi. C'est tous ces gens qui vont ressusciter, mais qui ne sont pas sauvés. Et dans le texte, il est dit « grand » et petits qui partent en enfer. C'est triste quand j'y pense. Alors, il y en a qui vont dire que c'est peut-être des grands, je veux dire, en autorité. Je pense que le texte, on va le garder comme il est. Mais de toute façon, c'est vrai. Il y a des enfants qui ne sont pas sauvés. Hein. Donc, il faut avoir peut-être ça dans la mémoire, de se penser que peut-être mon enfant, un jour, ne sera pas sauvé. Alors, ça ne veut pas dire que c'est ma faute. Sauf si je n'ai rien fait pour lui. Il faut vraiment réfléchir à l'éducation de notre enfant. Si le salut reste un choix personnel à un moment, c'est chacun est responsable pour soi. Les parents, on l'a vu, ont une grande responsabilité pour aller vers ce choix. Si l'enfant n'en veut pas du tout, il ne faut pas culpabiliser non plus. Hein. C'est son choix. Voilà. Et on ne sait jamais, parce que la vie est longue, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, et peut-être même à la fin de sa vie, il va se souvenir de toutes ces choses, il va demander pardon au Seigneur et se convertir. Mais c'est un choix personnel. Dieu a offert des parents, il a aussi offert des chrétiens, il a offert une église pour justement conduire ses enfants à Christ. C'est formidable quand même qu'on y pense. On ne pourra pas se retrouver devant Dieu en disant « Ah ouais, mais t'as rien fait pour que ses enfants connaissent Christ. » Faux. Il nous a tout donné, tous les outils, pour qu'on puisse les instruire et les amener à lui. Mais à chacun d'assumer ses propres responsabilités. Je parle des parents, je parle du chrétien, tout simplement dans l'église aussi. Hein. On a une responsabilité. Et je terminerai avec ce beau verset de Matthieu 19, 14, hein, même si on parle de pas vraiment des enfants, mais bon. Et Jésus dit, laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et c'est la crainte de l'Éternel qui conduit à devenir ce petit enfant, parce que là, on parle plutôt d'humilité hein, que d'être un enfant. Et si l'enfant arrive à cette crainte de l'Éternel, il aura l'humilité pour reconnaître son péché, il aura l'humilité aussi pour saisir la grâce, tout simplement. Et là, ça sera notre joie en tant que parents. Et de la joie dans le ciel. Que le Seigneur nous aide, vous aide, parce que vous êtes parents, hein, mais nous aide tous aussi à être un exemple. On va prier. Seigneur, d'abord, je voudrais te prier pour toutes les mamans de cette église, puisqu'on c'est leur fête aujourd'hui, et je te demande de vraiment les bénir dans leur rôle de maman. Tu sais que ce n'est pas toujours simple, et il faut beaucoup de patience, d'amour, Seigneur, et que tu renouvelles leur force ce matin. Que tu les accompagnes aussi dans leur connaissance de ta parole, dans le développement de leur foi, qui produit justement ce fruit de l'esprit et cette patience, cette maîtrise de soi, pour que face à l'enfant, ben, elle puisse les éduquer comme elle voudrait le faire. Je demande aussi de bénir les couples, les parents. Nous avons parlé de leurs responsabilités, et je sais que chacun le sait, mais le temps passe si vite des fois, et on n'a pas le temps. Et je te demande de remettre en cause chacun dans ce travail, et de faire tout simplement ce que la parole de Dieu veuille qu'on fasse. Je te prie aussi pour nos enfants et merci pour cette joie de les avoir et la joie de les instruire d'une manière ou d'une autre, mais nous prions surtout pour leur salut, Seigneur. Tu sais comment les amener à toi, même si ça passe aussi par notre travail, mais à un moment, c'est toi qui vas les arrêter sur leur chemin et vraiment qu'ils puissent tout simplement t'accepter dans leur vie. Ce sera notre joie et ta grande joie aussi. Et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Thank you.